cette parole s'adresser au moins à une personne, tu vois. Nous sommes des richesses amenées dans la maison de Dieu et Dieu fait des dons aux hommes. Tu es un don de Dieu fait aux hommes. J'aimerais que cette parole-là, nous puissions l'intégrer pour notre propre vie. Nous sommes des dons pour les hommes. Quand Dieu nous crée, c'est parce qu'il veut amener la vie, il veut amener la bénédiction, il veut amener quelque chose de bon parmi les hommes. Et tous, autant que nous sommes des dons que Dieu fait à l'humanité. Dieu avait une intention en te créant et aujourd'hui, c'est là ton identité. Sache que tu es fils, j'ai mis fille aussi, et que tu es la réponse de Dieu pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie, nous sommes la réponse que Dieu va apporter à une personne. Je ne sais pas si vous êtes prêts, si je vous faisais témoigner un peu, mais moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai même rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément croyantes comme nous, mais qui ont marqué mon existence, comme si Dieu les avait mis sur ma route et elles avaient comme imprégné ma vie, ces personnes-là. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était très fort. D'autant que j'en avais besoin, parce que ma relation fils-père était un peu compliquée. Et le Seigneur, parce que j'avais ce besoin-là en moi de trouver un père, a souvent mis des personnes qui n'ont pas remplacé mon père, mais qui m'ont conduit vers le Père céleste, afin que je reçoive vraiment cette assurance que j'étais fils du roi des rois. Dieu nous encourage à considérer ce que nous sommes à ses yeux. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir, c'est pas toujours facile de considérer ce que nous sommes vraiment. Parce que l'image que nous avons de nous-mêmes est souvent fausse par rapport à ce que Dieu nous donne d'être réellement. Revenons à nos rêves. Nos rêves d'enfants. Nos rêves de nouveau-né, nos rêves d'il y a peut-être 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Revenons à nos rêves et à nos visions initiales, qu'ils se sont éteints et dont Dieu veut ramener à la vie. Dieu veut ramener à la vie nos rêves, nos visions. C'est la réponse pour quelqu'un que Dieu mettra sur notre route. Et lorsque Dieu dit qu'il ne se repent pas de son appel et de ses dons, en réalité, quelle que soit, écoutez bien ceci, quelle que soit l'attitude, notre attitude, quelles que soient nos actions passées, quelles que soient les choses que nous avons pu subir, Dieu ne remet pas en question, il ne change pas ses buts, ses appels, ses dons et ses décisions envers nous. Pourquoi je vous dis, et j'affirme cela, parce que tout est amené aujourd'hui à nous faire croire le contraire. C'est faux. Tout ce que Dieu avait décidé, alors que nous étions encore dans le ventre de notre mère, il a dit, voilà, Bruno, je ferai de toi un berger. Bruno, je ferai de toi un homme qui rencontrera des personnes, qui les amènera au Seigneur. Ce jour-là, Dieu a décidé que ses dons ne seront jamais changés. Son appel n'a pas changé. Certes, j'ai eu des attitudes pendant tout un temps dans ma vie qui m'ont amené à m'éloigner de cette vision initiale que Dieu avait pour ma vie. Mais néanmoins, Dieu m'a rattrapé un jour et m'a dit « Maintenant, tu vas rentrer dans ton appel. » Il y a 2 conséquences puissantes sur ce verset. 1. Si pendant tout un temps, et ça, vous savez que Romains 11 parle d'Israël qui a pendant tout un temps abandonné Dieu et qui s'est rebellé contre Dieu. Et Paul est en train de dire, mais Dieu ne renonce pas à ça. Il sait qu'il touchera Israël. Ce peuple qu'il a choisi sera touché à un moment donné. Et pendant tout un temps, si tu as refusé de reconnaître que Jésus était le Messie, que Jésus est le Messie, toujours vivant, si tu l'as rejeté dans le passé, aujourd'hui, le Seigneur désire te recevoir et t'accepter. T'accueillir pour faire de toi une nouvelle personne. parce que Dieu ne raccommode pas. Et Jésus l'a dit, je ne prends pas une pièce de tissu neuf pour en mettre sur un ancien. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Parce que si je couds, alors je ne suis pas couturier, comme ma belle-fille qui s'est mise à la couture, là. Si je couds de l'ancien sur de neuf, que se passe-t-il ? L'ancien se déchire. Et lorsque Dieu prend une personne, ce n'est jamais pour rafistoler, ce n'est jamais pour faire quelque chose de nouveau avec de l'ancien. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il nous ferait naître de nouveau, qu'il nous amènerait dans une nouvelle vie. Autrement dit, quand une personne vient à Dieu, c'est toujours pour faire quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est ancien, tout ce qui impacte encore notre vie aujourd'hui, est amené à être brûlé, faire mourir les choses. Dieu veut faire mourir les choses du passé pour faire toutes choses nouvelles. Dieu ne rafistole pas. Il guérit, il fait toutes choses nouvelles. La deuxième conséquence de tout ça, c'est que l'appel et les dons que tu as reçus quand tu es devenu une nouvelle créature restent valables encore aujourd'hui. Deux fois. Et je vais vous raconter l'histoire de Joseph brièvement, parce qu'elle est longue, hein, l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Si on étudiait toute l'histoire de Joseph, on n'en aurait pas assez de cette matinée. Joseph, fils de Jacob et de Rachel, et c'est un exemple parfait. Je vous rappelle un peu l'histoire, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Joseph, et il avait donc des demi-frères, et puis il est tout adolescent, tout jeune, et il reçoit deux visions. Deux visions initiales, deux visions qui vont marquer la vie de ce jeune homme. La première, c'est qu'il voit des gerbes de blé qui se courbent devant 11 autres. En fait, la gerbe de blé, les 11 gerbes de blé se courbent devant Joseph. D'accord ? En fait, il a vu une vision que ses frères allaient à un moment donné se courber devant lui. C'est qu'il allait avoir comme quelque chose de supérieur par rapport à ses frères. Et la deuxième, c'est qu'il voit aussi la même chose par rapport aux étoiles qui se prosternent, si je puis dire, qui se courbent devant lui. Même le soleil et la lune, qui peuvent représenter son père et sa mère, sa belle-mère, peuvent représenter cela. En fait, dès l'adolescence, ce jeune homme reçoit qu'il allait être en position d'autorité. Alors le problème, c'est qu'il est dans une famille recomposée, si je puis dire, et puis ça va créer la jalousie. Et que va-t-il se passer ? Pendant des années, il va se retrouver, à cause de ses frères qui le jettent pour mort dans une citerne à eau, hein, qui le laissent pour mort, il va se retrouver en prison, il va se retrouver être dans des situations difficiles, jusqu'au jour où il devient premier ministre de l'Égypte. Et là, il est en position d'autorité. Et un beau jour, que se passe-t-il ? Malgré tout ce qui s'est passé, et croyez-moi qu'il en a vécu des vertes et des pas mûres, Joseph, ses frères viennent se prosterner devant lui. Et même son père le voit, un jour il se prosterne devant lui. Est-ce que vous vous rendez compte que la vision initiale de Joseph, malgré tout ce qu'il a vécu, finit par s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, met des choses au fond de notre cœur. Il a mis des choses qui sont là et que nous devons, si je puis dire, garder attachées au fond de nous. On va le voir. D'accord ? Que devons-nous faire pour que nos dons s'expriment dans notre appel divin ? D'abord, garder la foi. Si je peux dire, voici ce qu'il est écrit en Jacques chapitre 1, verset 6, je crois. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et là, je voudrais insister sur ce passage-là maintenant. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Je ne sais pas s'il vous est arrivé d'être en mer et d'être secoué par les flots, mais ça secoue bien. Hein, d'accord ? agité par le vent et poussé d'un côté et d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le problème de nos croyants, c'est quoi ? C'est qu'ils ne croient pas à la véracité de la Bible. Si les gens dans la rue à qui nous prêchons l'évangile se mettaient à croire à la parole de Dieu, ils donneraient leur vie au Seigneur. Si nos amis, si notre famille, tous ceux qui sont loin de Dieu se mettaient à croire à la véracité de la Bible, ils donneraient leur vie au Seigneur tout de suite. Parce que la Bible est source de vie, source de vérité et source de salut. Le problème des non-croyants, c'est qu'ils ne croient pas à cela. Ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. Mais vous savez quel est notre problème à nous ? C'est que souvent, nous mettons en doute ce que Dieu dit dans la Bible à notre sujet. Notre problème, c'est pas que nous ne croyons pas que la Bible est la vérité. J'espère que vous croyez que tous, que la Bible est la vérité. Le problème, c'est que cette vérité, parfois, nous mettons un doute parce qu'elle est aussi pour nous. Et le doute vient là. Le doute, c'est que lorsque je ne crois pas qu'il y a des promesses dans la Bible qui sont pour moi. C'est pour ça que Jacques dit que souvent, les chrétiens sont des hommes et des femmes irrésolus, inconstants dans leur voie, qui se laissent balloter ça et là. C'est parce qu'ils n'ont pas saisi que ce qui était dans la parole de Dieu, c'était pour eux. Et là, nous avons un gros travail à faire. Parce qu'il ne peut pas y avoir foi sans conviction profonde que nous sommes fils et filles possédant et gérant les biens du royaume de Dieu, les biens du Père. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé lorsque le fils prodigue s'en va. Est-ce que le fils arrête d'être enfant de Dieu, enfant du Père ? Non. La seule différence entre le fils prodigue, là où il était dans la maison, et là où il est en train de manger les carouges ou donner à manger au porc, vous savez la différence entre les deux ? C'est qu'il a perdu sa dignité, il a perdu son autorité, il a perdu sa bague, il a perdu son habit. Mais lorsque le père le voit revenir, et je crois que ça a été prêché dernièrement par Geoffrey, lorsque le père l'amène de nouveau, le voit de nouveau, que fait-il ? Il court vers lui, il fraye le chemin jusqu'au fils. Il l'amène dans la maison. Et que fait-il ? Il lui donne de le laver, il le purifie de ses péchés, il le lave, il le rétablit, il lui donne un habit, il pose sur les épaules de son fils un manteau et une bague. Maintenant, le fils, que fait-il, à votre avis ? D'accord, il va se réjouir. D'accord, il va se reposer un petit peu. D'accord, mais il a l'autorité qui est sur le fils, elle vient du père. Le père a rétabli le fils dans son autorité. Et notre problème, c'est que souvent, nous avons la Bible face à nous, nous croyons que Dieu nous a sauvés, mais nous oublions quelque chose d'important, c'est que nous portons le manteau du fils et de la fille, nous portons la bague du fils et de la fille, et nous sommes en autorité de gérer les choses, et de les déclarer, et de les vivre. La foi, ce n'est pas simplement de dire « Merci Père parce que tu es venu jusqu'à moi et tu m'as lavé ». La foi, c'est de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as remis la bague, parce que tu as passé la bague à mon doigt et parce que tu m'as donné un habit. Et maintenant, je peux porter cet habit. Et maintenant, je peux ordonner les choses dans le royaume. » Et maintenant, je peux prier, parce que maintenant, lorsque je déclare les choses dans ta maison, elles se passent, elles arrivent. C'est cela la foi. Et quand tu as le doute en fait, c'est quoi ? J'essaye de réfléchir à ça, parce que je suis un homme qui doute encore. Quand tu as le doute, c'est parce que, en fait, tu n'es pas accompli parfaitement dans l'amour du Père. C'est parce que j'ai pas encore réalisé totalement l'amour du Père. Parce que le doute amène quoi ? l'incrédulité. Mais le doute amène quoi aussi ? Il amène un désir dans ma vie de contrôler les choses. Je veux contrôler. Je voudrais que les choses soient faites. Parce que le doute, le contrôle m'amène à prendre une certaine, à avoir une certaine sécurité dans ma vie. Il y a des gens qui veulent tout contrôler. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, je peux vous le dire, il voulait tout contrôler. C'était invivable de bosser avec lui. Alors, je bénis cet homme. Mais je n'ai pas pu continuer de travailler avec lui. Tellement le contrôle était fort. À tel point que je me sentais lié par cet homme. Pire encore, je me sentais contrôlé et je culpabilisais si je ne faisais pas les choses comme cet homme. Et croyez ce que je vous dis, c'est quelque chose qui poursuit pas mal de chrétiens, d'enfants de Dieu encore aujourd'hui, le contrôle. Si nous ne contrôlons pas, nous nous insécurisons. Mais sachez que quelqu'un qui contrôle sera toujours prisonnier. Et quelqu'un qui contrôle sera toujours, si je puis dire, malheureux. Et il rendra les gens malheureux autour de lui ou d'elle. Parce que le contrôle, c'est, si je puis dire, c'est une origine qui est plutôt satanique. Parce que Dieu ne contrôle jamais. Il gère. Il ne contrôle pas. Réfléchissez à ça dans les gens qui viennent et demandez au Seigneur dans quelle partie de ma vie j'ai besoin de lâcher prise par rapport au contrôle. Et tout ça, ça n'a qu'une seule origine. Vous savez quoi ? C'est parce que le Père est venu vers vous, il vous a pris, il vous a mis une bague, il vous a mis encore le manteau. Vous êtes dans la maison du Père, vous êtes déclarés fils et filles et vous vous comportez encore comme l'enfant qui est dans la porcherie. Je ne dis pas que vous péchez, mais votre mentalité est encore celle d'un pécheur. Alors qu'il faudrait simplement accepter que le Père et croire que le Père nous a donné tout cela. Quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Il accomplit le salut des hommes. Il accomplit le sacrifice parfait pour que les hommes puissent être délivrés. Mais il accomplit quelque chose de plus grand, de plus glorieux. C'est-à-dire que tous ceux et toutes celles qui n'étaient pas dignes d'entrer, de revenir dans la maison, maintenant, parce qu'ils ont le sang de Jésus qui le lave et qui les purifie, peuvent entrer. Et ils peuvent être restaurés dans leur dignité et dans leur autorité. La deuxième des choses qu'il faut faire, si mon truc veut bien avancer, c'est protéger votre appel et vos dons. Mais qu'est-ce qui peut éteindre notre appel ? C'est quoi qui a pu provoquer que la vision initiale, ce que j'avais reçu de Dieu, peut-être la semaine dernière ou il y a 30 ans, a pu faire évoluer les choses ? À tel point qu'aujourd'hui, allez, j'ai une vie peut-être chrétienne ou je lis ma Bible, ouais, je prie, ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'extinction de notre appel ? D'abord, nos épreuves. Vous savez, Joseph, à un moment donné, s'est retrouvé en prison, puis après, il est devenu un peu l'intendant d'un officier égyptien, Alain. Et le problème, c'est que Joseph était beau gosse, comme Simon. Et il commence à plaire à la femme de Potiphar. Du coup, toutes les dames se retournent vers toi, Simon. Et il commence à plaire à la femme de Potiphar. Que fait-elle ? Elle lui fait vraiment des avances. Hein. Et vous savez, Joseph, il va avoir une attitude qui est quand même assez extraordinaire. C'est qu'il ne va pas succomber à la tentation. Il va dire, je n'attristerai pas mon responsable, donc mon supérieur, et surtout, je n'attristerai pas Dieu. Vous savez, Joseph, quand il reçoit la vision des gerbes et des étoiles, Il garde ça au fond de son cœur et ça va le garder tout au long de sa vie. Et souvent, vous savez, il y a des épreuves que nous avons vécues, des choses difficiles. Il y a même peut-être des tempêtes et peut-être même que nous avons failli dans ces tempêtes. Mais souvenez-vous ce que Dieu dit en Romains 11, Dieu ne se repent pas des dons et de son appel. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu es dans la culpabilité et que tu te dis « mais est-ce que je suis vraiment digne de servir le Seigneur ?» Déjà, ne te pose pas la question « oui, tu en es digne » parce que le sang de Jésus te lave et tu purifies de tous tes péchés. Je reprends l'exemple, et souvent je prends cet exemple-là, du sacrificateur Josué dans le temple qui est accusé par Satan. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Et que fait-il ? Bien sûr, Josué, ce sacrificateur, n'était pas un homme parfait. Et vous savez ce que Dieu ordonne depuis son trône ? Enlevez-lui sa robe sale et mettez-lui un habit de fête. Mettez-lui un turban sur sa tête. Parce que j'ai décidé que cet homme, même s'il était imparfait aux yeux des hommes, serait le sacrificateur de mon temple. La deuxième des choses, ce sont nos échecs. Je viens juste d'en parler. Pierre qui renie Jésus. Pierre, à qui Jésus a dit un jour, « Pierre, tu pêches les poissons, suis-moi, je vais te faire pêcher des hommes maintenant. » Il rencontre Jésus et Jésus lui apporte la vision de sa vie. Ça vous paraît anodin peut-être. Viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Mais c'est ce que Dieu avait déposé sur Pierre. Pierre, qui était un homme fougueux, comme beaucoup. Et puis Pierre, qui suit Jésus et qui a vécu des choses fortes avec lui. Très fortes. On va le voir après. Pierre qui le renie. Pierre qui s'enfuit. Pierre. Pierre qui n'était pas digne à ses yeux. Et Jésus meurt, il ressuscite et il retrouve Pierre. Et que dit-il à Pierre ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Trois fois va-t-il lui dire cela. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et vous savez ce qu'il veut lui dire ? Paix mes brebis. Et que va-t-il se passer le jour de la Pentecôte ? Le pêcheur de poissons voit le Saint-Esprit tomber selon la promesse de Joël. Il fait sans doute les plus belles des prédications qu'on peut voir dans la Bible. Et puis Pierre proclame la bonne nouvelle en Jésus. 3000 âmes sont sauvées. Oui, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Le pêcheur de poissons était appelé pêcheur d'hommes 3 ans plus tôt et il devient véritablement le pêcheur d'hommes. Ça, c'est uniquement la manifestation de quoi ? De l'amour et de la grâce de Dieu. Et puis notre succès aussi. Vous savez qu'il y a des succès qui sont dangereux ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de succès, c'est-à-dire qu'il faut bien les analyser. Je prends l'exemple de Jésus. Tiens, on va parler de Jésus qui a rencontré les disciples et il a dit à Pierre, tiens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et puis, on le conduit dans la maison de Pierre. Là, que fait-il dans la maison de Pierre ? Il guérit qui ? Sa belle-mère. Eh oui, Dieu guérit les belles-mères. Il prend la belle-mère de Pierre, il la guérit parce qu'elle avait une forte fièvre, je crois. Hein ? Elle a une forte fièvre. Et là, du coup, les gens, ils voient, waouh, c'est la puissance de Dieu. Vous imaginez, Jésus guérit les belles-mères. Et là, que font-ils ? Ils vont chercher tous les malades du quartier. Vous imaginez un peu si ça se passait ici ? Ce serait extraordinaire, quoi. Et puis, ils amènent tous les malades, les démoniaques, les démons sortent. Il y a des démons qui sortent, des gens sont délivrés, il y a des malades qui sont guéris, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors ils se disent, oh bah c'est super, Jésus lui tout de suite il dit, ah, je vais me mettre dans un endroit tranquille et je vais prier. Il prend du recul par rapport à ce qu'il vient de vivre. Et là, tout le monde le cherche, il le retrouve. Il dit, reste avec nous, Jésus. Vous savez ce qu'il va répondre? Il va leur dire, non, parce qu'il faut que j'annonce l'évangile dans d'autres villes. C'est là la mission que j'ai reçue de celui qui m'a envoyé. Dans ce terme, d'ailleurs, on retrouve le terme apostolos, qui veut dire apôtre. J'ai été envoyé, non pas pour Capernaum, mais j'ai été envoyé pour les nations, pour le monde entier. Vous savez, parfois, il peut y avoir des succès dans nos vies, et on réussit des choses, et on s'habitue à faire les choses comme ça, et on se dit, oh, ça marche, et on reste là-dedans. Et parfois, notre succès nous empêche d'accomplir la vision initiale que le Père nous donne. Il était le sauveur des nations, pas le sauveur de Capernaum. Il était celui qui était appelé à sauver tous les hommes, pas les Capernauméens. Et parfois, je veux vous interpeller à cela. Si un jour vous avez du succès dans votre vie, dans un domaine de votre vie, prenez du recul, priez, recherchez la face du Seigneur. Parce que souvent, il y a un piège dans le succès. On va continuer à faire comme ça. Et du coup, j'ai mis une émoticône plutôt triste. Très souvent, les circonstances négatives et positives nous ont écartés de notre appel, de notre destinée, et elles ont étouffé nos dons. Que devons-nous faire aussi maintenant? Ne jamais laisser personne vous voler votre appel et vos dons. C'est à vous. Soyez égoïste, si je peux dire. Ce n'est pas biblique ce que je dis, je sais. Mais soyez égoïste. Prenez votre appel et vos dons comme un trésor que nul ne pourra vous enlever. Parce que moi, je me mets à la place du Fils, à qui le Père a mis une bague, à qui le Père a mis un manteau. Et puis j'imagine quelqu'un venir lui voler ou quelqu'un lui dire « Tiens, c'est mon habit. » Je peux vous dire qu'il aurait pris le truc. J'ai vu mon petit-fils hier, moi. Il était tout seul en train de jouer sur une sorte de truc à toboggan, enfin bref. Il joue tout seul, il s'éclate. Il n'y a que juste sa sœur qui a le droit d'y aller. Et à un moment donné, mais ça m'a interpellé son attitude, à un moment donné, il a dit, c'est comme si ça lui appartenait, il a vu d'autres enfants jouer. Il a dit, mais c'est à moi ça? Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, dans le cœur de ce petit garçon, il y a quelque chose qui est fort et puissant. C'est qu'on ne viendra pas lui voler ce qu'il a obtenu de Dieu. On le sent de la détermination dans ce qu'il a, dans son caractère. Alors certains pourraient dire, c'est un fort caractère. Oui, c'est un caractère, on l'a vu. Mais on ne viendra jamais lui piquer ce qu'il a reçu de Dieu. J'en suis convaincu. Tu pourras lui dire quand il sera plus grand. J'ai cette conviction, quand je l'ai vu faire hier, j'ai dit, waouh, ça va être un gagnant dans le royaume de Dieu. Et vous savez, souvent, on nous a laissé prendre nos dons. Il y a des choses que Dieu a mis dans notre cœur, qui a mis là dans nos tripes, qui étaient là, et on nous a volé ça. On nous a volé notre trésor. Le voleur vient pour, le diable vient pour voler, égorger, détruire. Et il y a bien quelqu'un qui veut vous voler ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Positionnez-vous en tant que fils ou fille rétabli dans la maison du Père. Souvenez-vous de l'image du fils prodigue. Vous êtes celui ou celle qui avait l'habit et la bague. Vous avez l'autorité. Et rappelez-vous que vous êtes en lui, ce que vous êtes en lui, pas uniquement qui vous êtes en lui. Vous n'êtes pas simplement enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, pasteur, docteur, vous êtes, je sais pas moi, quelqu'un qui est appelé à bénir, aller dans la rue, à évangéliser, vous êtes peut-être quelqu'un qui est appelé à prendre soin des enfants. Ce que Dieu vous a donné, gardez-le précieusement, comme Gollum. Pour les adeptes de ce genre de film. Relisez et reconsidérez ce que le Saint-Esprit vous a dit dans le passé. Allez, je vous raconte un peu ce que j'ai vécu. Un témoignage personnel, je dis rien que tel que les trucs vécus, hein. Vous allez le retenir. Il y a quelques temps, j'étais en crise un peu perso, quoi. Enfin, pas crise. Allez, je me posais beaucoup de questions. Vous savez, le mec qui doute dans Jacques. En fait, quand Jacques a écrit cela, il l'a écrit pour moi. Je me mets à douter. Et je dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment fait pour ce que je fais ? Et là, le Saint-Esprit, petite voix, vous savez, qui arrive, qui dit, qu'est-ce que je t'ai dit ? Il ne m'a pas dit, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça. Il m'a dit, t'es suffisamment grand pour te souvenir tout ce que je t'ai dit. Et donc, pendant ce temps de prière, qui était un moment pas extraordinaire, mais profond, j'ai commencé à me souvenir tout ce que Dieu avait dit de moi. Le jour de mon baptême, à Roubaix, on s'est fait baptiser à Roubaix avec Marise. Je me souviens, il nous avait dit, je vous vois comme des colonnes dans le temple qui allaient soutenir un édifice. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis parti du jour de mon baptême jusqu'à les dernières paroles que j'ai reçues. J'ai tout relu. J'ai tout réemmagasiné. Et j'ai placé ça devant Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, t'as vu tout ce que je t'ai dit ? Pourquoi tu doutes encore ? Et vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là ? Parce que comme quelqu'un parfois qui est fatigué après une journée de travail, vous savez ce qu'on veut, la première chose qu'on a envie de faire ? Moi, j'ai travaillé dans la chimie et j'ai travaillé dans des lieux où c'était plutôt dangereux, il fallait être équipé de visières. Vous savez, les visières, ça ne date pas du Covid. Hein, ça, bon. Donc, de visières, de casques, de gants, etc. La première des choses, parce qu'on travaillait 12 heures, la première des choses que j'avais envie de faire à l'époque, quand je rentrais en salle de contrôle, c'était de poser mon casque avec la visière qui était lourde et d'enlever ma veste. Parce que des fois, il faisait 30 degrés dehors et puis dans l'installation, il faisait 50 degrés. Et j'étais dégoulinant. Voilà, j'avais déposé mon manteau. Déposé le manteau que Dieu avait mis sur mes épaules parce que j'étais fatigué, parce que j'avais envie de repos. Et là, dans un élan de foi, j'ai dit, je ne suis pas le fils qui est dans la porcherie. Tu m'as ramené dans la maison, Père. Et tu as dit, voilà, je te donne telle bague, je te donne tel habit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai déclaré dans la prière. J'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, je déclare que tu as dit ça, que tu as dit ça, que tu as dit ça, que tu as dit ça. Et aujourd'hui, Seigneur, je remets le manteau sur mes épaules. J'ai pas attendu que mon pasteur le fasse. J'ai pas attendu que vous le fassiez. Parce que le manteau, il était là, au porte-manteau. J'avais juste à le prendre et à le revêtir tout à nouveau. C'est là où j'ai mis ma foi en action. Et l'autorité que Dieu m'avait donnée. Parce que il y en a un qui était en train de me voler ce que Dieu m'avait donné. Relisez, reconsidérez ce que le Saint-Esprit vous a dit dans le passé. Redéfinissez vos objectifs. Ils doivent correspondre à ce que Dieu vous a dit. Il y a un frère que j'aime beaucoup qui dit tout le temps, si tu n'es pas dans le champ de Dieu, tu ne récoltes pas. C'est-à-dire que si tu es dans un autre champ que dans le champ dans lequel Dieu t'a mis, tu ne récolteras pas. Reconsidérez. Je sais, ça va peut-être bouleverser votre vie. Ça va peut-être rebouleverser vos prochaines semaines, vos prochains mois. Mais sachez une chose. Redéfinissez vos objectifs, non pas entre ce que moi j'aurais pu vous dire ou n'importe qui dans cette communauté, mais entre ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ? Qu'a-t-il déterminé ? Qu'a-t-il dit prophétiquement ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est ça qui est important, ce que Dieu vous a dit. Et entrez et redéfinissez vos objectifs. Ensuite, soyez déterminés. Parce que, eh oui, il y a des obstacles. Il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des personnes plus ou moins inspirés, qui vont me dire « Non, non, c'est par là, garçon. » Ou qui diront « Non, non, arrête-toi, tu vas trop vite. » Il y aura toujours des personnes comme ça. Mais entrez et soyez déterminés à vivre vos dons et vos appels. Et soyez assurés, le Seigneur est maître de tout. Pourquoi je dis cela ? Parce que longtemps, moi, j'ai culpabilisé. Et notamment, dernièrement, j'ai une grosse crise de culpabilité. Il y en a, c'est de l'urticaire, d'autres, c'est du rhumatisme. Moi, c'est une crise de culpabilité. Et ça soigne très bien. En déclarant une seule chose, j'ai compris une chose. C'est que dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai pu accomplir de bien ou de mauvais, Dieu est le maître de tout. Dieu est le maître de tout. Et je le déclare. Il est le maître de tout ce que j'ai fait. Il a su faire, avec des grosses bêtises de Bruno, des choses belles. Il est extraordinaire, le Seigneur. Et Joseph dira, en pardonnant à ses frères, regardez ce qu'il dit. C'est Dieu qui m'a fait venir ici. Parce que Joseph, à travers tout ce qu'il a vécu, rejet, indifférence, parce qu'il a sonné et dit « S'il vous plaît, faites-moi sortir, je suis innocent, etc. etc. » Tout ce qu'il a vécu, à un moment, il a dit devant ses frères. Et croyez-moi, ça ne devait pas être un moment facile, parce qu'il a vécu quand même, à cause d'eux, une bonne partie de sa vie de galère. Hein. Il les pardonne, il pleure, et il dit « C'est Dieu qui m'a fait venir ici. » Moi, je le déclare, c'est Dieu qui m'a fait venir ici. C'est Dieu qui t'a fait venir ici. Nathan, c'est Dieu qui t'a fait venir ici. Josiane, c'est Dieu qui t'a fait venir ici. Dieu nous a fait venir ici. Pourquoi ? Parce qu'il est souverain. Et parce qu'un jour, il a mis, déposé dans chacun de vos cœurs un appel. Il a déposé des dons en vous. Il t'a fait venir ici. Et vous allez comprendre pourquoi après. Conclusion. J'ai fini. J'étais long, non ? Le Seigneur a un projet pour ta vie. Une destinée toute tracée où tu seras une bénédiction pour quelqu'un sur ta route. Je crois que ça reste fidèle à ce qui a été partagé la semaine dernière. Pour autant, ce n'est pas automatiquement acquis. Aujourd'hui, tu as un choix. Ou alors une décision à prendre. Peut-être qu'il faut que tu remettes le manteau. Peut-être qu'il faut que tu remettes la bague. Peut-être qu'il faut que tu remettes la foi sur ce que Dieu t'a dit dans le passé. 1. Demande au Saint-Esprit de te révéler ta position de fils ou de fille. Je le déclare. C'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser, s'il vous plaît. Tu es fils dans la maison du Père. Tu es fille dans la maison du Père. Tu gardes la foi ? Garde la foi. J'espère avoir transmis un peu de foi ce matin. Protège, hey. Repense à mon petit Léo. Moi, je le déclare que Satan ne vienne pas jouer dans mon toboggan. C'est mon toboggan, c'est mon appel, ce sont mes dons. Ce ne sera jamais mon église, mais c'est mon appel, ce sont mes dons. C'est à moi, ça. Et je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. Léo, vous savez ce qu'il a dit ? M'énerve. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'était acquis, c'était à lui. Nul n'aurait pu... Alors après, bon, ça va, ils sont partis, Dieu merci, parce que je ne savais pas comment gérer la situation, si vous voulez. Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quelle leçon on apprend avec les enfants, n'est-ce pas ? Que personne ne vienne plus voler quoi que ce soit. Et si tu penses que tu es passé à côté de quelque chose, sache une chose. Et ressouviens-toi de Romains 11. Dieu ne se repent pas des dons et de son appel. Dieu ne se repent pas des dons qu'il t'a donnés et de son appel. Dieu ne se repent pas des dons qu'il t'a donnés et de son appel. Même si tu es imparfait ou imparfaite, même si tu as à un moment donné écarté ta voix, Dieu ne se repent pas des dons et de son appel. Et il a les idées fixes, le Seigneur. Et regardez le résultat. Je voudrais que vous regardiez cette image. Qu'est-ce que vous voyez ? Le 1 de impossible tomber. Oui, c'est possible de passer de l'autre côté. Oui, c'est possible, même si le gouffre paraît grand à tes yeux. Même si ça fait un peu peur, je dois le dire. Mais ce que j'aime, c'est le bras levé de la victoire de cet homme ou de ce garçon, je ne sais pas. Parce qu'il a mis sa foi en action. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a cessé de croire que ce qui était dans la Bible ne le concernait pas. Aujourd'hui, lui, il réussit à passer de l'autre côté. Ça devient possible parce que pour lui, la Bible, c'est pour lui qu'elle est écrite. Et regardez ce que Joseph dira. Voilà quand un homme entre et accomplit tout ce que Dieu lui demande pour entrer dans son appel et qu'il protège les dons et qu'il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il dira « Annoncez à mon Père quelle est la gloire dont je suis comblé. Et tout ce que vous avez vu dans l'Égypte. » Est-ce que vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer là ? Un homme, un petit jeune homme, qu'on a balancé dans une cuve, dans une citerne à eau, laissé pour mort. Un jeune homme à qui on n'aurait pas payé un copec le jour où les frères l'ont mis dans la citerne. Un jour, cet homme déclare, parce qu'il est rentré dans son appel, parce qu'il a préservé son appel, parce qu'il a pris les choses pour lui, il les a gardées pour lui, il a continué à exercer les dons, même en prison, même avec Potiphar, même lorsqu'il est auprès du Pharaon, premier ministre, il garde tout, il exerce, et regardez ce qu'il peut dire un jour, annoncer à mon Père quelle est la gloire dont je suis comblé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à travers votre appel, à travers les dons, Dieu va manifester sa gloire. Il va envoyer sa gloire. C'est le but de Dieu sur l'Église. Il veut envoyer la gloire sur l'Église afin que nous qui la verrons, nous puissions annoncer quand je verrai la gloire sur Nathan. Et je dirai, mais je vais parler de la gloire, je la vois la gloire qui est sur la vie de mon fils. Quand je verrai la gloire sur toi descendre, je dirai, mais je ne peux pas me taire. La gloire, elle est sur ma sœur. Je vais l'annoncer. Je connais une femme dont la gloire, elle est comblée de la gloire de Dieu. Et je vois Dieu agir à travers elle. Ouais. Moi, je dis que c'est possible. C'est pas mission impossible. C'est mission possible. Et le vidéoprojecteur s'auto-détruira dans 5 secondes. Que Dieu vous bénisse.